Bonjour, auditeurs de Radio B 90 FM. Bonjour Martine.
Bonjour Rémi. Bonjour avec notre chronique mensuelle du passé mêlée au présent.
Pour la première fois depuis sa création, en 1995, la fête du cochon n'a pas eu lieu à Bourg-en-Bresse, sous le marché couvert, dans sa forme habituelle. Tout ça à cause d'un satané virus.
D'un autre côté, un cochon a gagné un sursis. Ensemble, évoquons la place du porc ou du cochon dans l'économie rurale et familiale de nos campagnes.
C'était un porte-bonheur, un petit cochon avec un cœur, qu'elle avait acheté au marché du quartier pour 20 sous, c'est pas cher entre nous.
Un proverbe dit, un avare et un cochon ne sont bons que morts. Ce n'est pas très flatteur. Comment l'expliquer ?
Durant sa vie à la ferme, le porc ne fait que manger et se reproduire. Alors qu'une vache donne du lait et du travail, la poule donne ses œufs. Le chien monte la garde, le chat chasse les souris. Tous ces animaux ont leur utilité à la ferme. Le porc ne fait rien de tout ça, mais on peut dire qu'il est un garde-manger pour l'hiver.
Nous parlons du porc domestique. Les livres anciens associent porc domestique et porc sauvage, autrement dit le sanglier. Sont-ils frères ? Le porc est-il un sanglier apprivoisé ?
Oui, on le pensait autrefois. Aujourd'hui, les zoologues sont moins affirmatifs. Il semble que les deux espèces se sont séparées plusieurs millénaires avant notre ère.
Évoquons ces deux espèces vis-à-vis des seigneurs et des nobles. D'abord, le sanglier.
Ah oui. Au temps de la féodalité, un seigneur n'était vraiment seigneur que s'il avait tué un sanglier en combat singulier, à l'issue d'une chasse. Se retrouver ainsi face à face n'était pas une sinécure, il fallait savoir manier le pieu ou la lance. Plusieurs seigneurs y ont perdu la vie, mais une telle mort n'était pas déshonorante, car le sanglier bénéficiait d'une image positive et de puissance.
Pas le porc domestique ?
Non, pas du tout. Lorsqu'un porc domestique, en octobre 1131, à Paris, provoque la chute mortelle de cheval du prince Philippe, futur roi, c'est l'histoire de France qui est modifiée. Cet accident est une tache portée à la monarchie française, une tache qui va rester pendant plusieurs siècles.
Les porcs étaient présents dans les rues des villes ?
À la recherche de leur nourriture, ils étaient un peu les éboueurs. Ces porcs appartenaient à l'ordre religieux des Antonins et avaient une clochette attachée à leur cou. Seuls ces porcs, à clochette, étaient autorisés à divaguer dans la cité.
À Bourg aussi ?
Oui. Au Moyen-Âge, jusqu'au XVe siècle, les Antonins étaient un ordre hospitalier très important, présent dans toute l'Europe, directement rattaché au pape. À Bourg, leur église et leur hôpital étaient dans le quartier de Bourmayer, près de l'actuelle rue des Casernes. L'ordre était divisé en commanderies et à Bourg, le commandeur le plus célèbre a été Antoine Ducet, écrivain, docteur en théologie, qui a prononcé l'oraison funèbre de Marguerite d'Autriche. Antoine Ducet était appelé le jambonnier de Saint-Antoine. La commune de Pérona lui a consacré un imposant son et lumière en 1995.
Pourquoi jambonnier de Saint-Antoine ?
L'iconographie religieuse occidentale attribue un cochon à Saint-Antoine l'ermite. De là, les porcs des villes confiés aux Antonins pour en tirer des bénéfices pour leur hôpital et nourrir des indigents. Cette appellation est propre à Bourg. Elle ne se retrouve pas ailleurs.
Quels malades soignaient ces Antonins ?
Ceux atteints du mal des ardents, ou le feu de Saint-Antoine. Une maladie qui provoque des convulsions et des nécroses aux membres. Des amputations étaient parfois nécessaires. Cette maladie survenait en temps de disette, lorsque les pauvres consommaient du pain de mauvaise qualité, contenant du seigle parasité par un champignon, l'ergot de seigle.
Comment étaient soulagés ces pauvres gens ?
les Antonins préparaient des breuvages associant du vin à 14 plantes et des baumes avec de la graisse de porc et des plantes. Tout cela avec un rituel et sous la bénédiction de saint Antoine. L'ordre perd de son importance au moment des guerres de religion.
Avec Antoine Ducet, nous sommes en Bresse. La Bresse revendique une race bressane pour ses porcs. Quelle est son origine ?
Un problème, Rémi. Hein ? Il y a de multiples réponses. Même Larousse se contredit à propos de la couleur de son pelage entre le Larousse agricole et le Larousse gastronomique.
Comment choisir, Martine ?
Le porc est très présent en Gaule et dans l'Empire romain. Au temps où les échanges commerciaux étaient limités, on peut penser que chaque région française a développé la variété la plus apte au climat, aux conditions d'élevage et aux attentes de la population.
Le porc est la base de l'alimentation carnée de l'homme.
En effet, les bovins sont utilisés pour les travaux des champs et la production du lait, les chevaux ou mulets pour les transports. Le porc est un élément important de l'économie rurale. Le grand Vauban, ministre de Louis XIV, a parcouru le royaume et vu la misère. Pour lui, la solution serait d'élever un cochon par famille. En ingénieur, il étudie l'élevage porcin et consigne ses projections. Une truie produit 10 générations, soit 6 millions de porcs.
Impressionnant. Tout un programme sérieux. Pour les régions françaises, vous avez parlé de l'émergence de variétés et non pas de races.
Parce qu'une race obéit à des critères bien précis, des standards consignés sur un cahier des charges, comme pour la volaille de Bresse ou la vache montbéliarde. Rien de tel pour les porcs. Les anciens concours agricoles mentionnent parfois la race bressane ou la race indigène, mais c'est une variété locale, sans critères bien définis, laissés au libre arbitre des jurys. Il s'agissait de récompenser de beaux animaux, des porcs avenants, bien proportionnés, je dirais grassouillets.
Des porcs de Bresse connus dans toute la France.
Et oui, par la diffusion du Tour de la France par deux écoliers. Un manuel scolaire de lecture courante avec plus de 200 illustrations. Le livre de base de tout écolier de France, édité en 1877, peu après la guerre franco-prussienne de 1870-1871. Cet ouvrage est utilisé jusque dans les années 1950 et encore édité en 2012.
Où le porc bressan est à l'honneur.
Oh, c'est plutôt une ferme de Bresse. Rappelons l'histoire. Deux enfants partent de Lorraine, parcourent les Vosges et la Franche-Comté pour arriver à Genève. De là, ils traversent le département de l'Ain pour se diriger vers Mâcon et le Morvan. C'est un ouvrage d'édification patriotique où un thème est développé à chaque étape.
Pour la Bresse, c'est une ferme bien tenue et l'hygiène de l'habitation.
Les deux enfants sont surpris d'y découvrir des porcs bien propres. Le fermier leur apprend que les porcs aiment la propreté. Il les conduit au ruisseau pour les laver, car le porc est sujet aux maladies de peau. Bien les soigner augmente le profit.
Les enfants visitent ensuite le poulailler.
La Bresse sans ses volailles, ce ne serait pas la Bresse. Leur accompagnateur du moment leur propose d'acheter 21 poulardes avec leurs petites économies pour les revendre à Mâcon avec un bénéfice d'au moins 50 centimes par pièce.
Revenons un peu en arrière, sous le Second Empire. L'économie s'est développée grâce au chemin de fer, à l'amélioration des routes. Ce contexte favorise les foires.
Pour les porcs, elles ont lieu en décembre et janvier. Elles sont dénommées foires grasses ou foires froides. Les plus importantes se déroulent dans les chefs-lieux de canton.
Elles n'ont pas lieu à un jour fixe de la semaine, mais à date fixe.
Comme le 24 novembre à Foissiat, le 29 décembre à Saint-Étienne-du-Bois. D'autres sont liées à un saint. La Sainte-Luce à Pont-de-Vaux le 13 décembre, la Saint-Antoine à Morvel le 17 janvier.
Certaines s'étalent sur plusieurs jours. 3 jours à Pont-de-Vaux, 2 jours à Saint-Trivier-de-Courte. Avec quelle affluence ?
Énorme ! Plus de 1000 porcs par journée de marché. 3163 porcs en 1849, en 3 jours, à Pont-de-Vaux. Et parmi ceux-ci, 2600 sont expédiés sur le canal par 14 bateaux. 3226 porcs gras et 437 porcelets en 3 jours en 1865. Près de 4000 porcs les 26 et 27 décembre en 1859 à Saint-Trivier-de-Courte. Imaginez l'animation dans ces villages, le mouvement des voitures, l'affluence dans les cafés.
Des porcs en grand nombre, de quelle qualité ?
À Morvel, en 1854, on décompte 900 porcs d'un poids de 150 kg. À Foissiat, en 1862, on signale un porc de 285 kg et deux autres de 270 kg. De véritables porcs gras, bon, des exceptions. La majorité des porcs pèsent environ 150 kg, le poids souhaité alors pour l'utilisation de la viande, des abats et de la graisse.
Ces foires se maintiennent dans le temps. La situation change après la Première Guerre mondiale.
Le pays a cherché à optimiser ses productions porcines, avec l'introduction de reproducteurs anglais ou danois pour des croisements. La recherche s'intensifie et on arrive à une standardisation progressive du cheptel français et à l'intensification de l'élevage.
Une nouvelle catégorie naît pour répondre à la demande du marché.
Nos campagnards ne produisent plus ou moins des porcs charcutiers. Ils élèvent des couratiers, des porcs de 20 à 30 kg, vendus à des engraisseurs. La production se fait alors en deux temps, en deux lieux. Malgré les a priori, le porc est un animal fragile et il vaut mieux séparer ces étapes.
Toujours dans ces années 1920, nous avons trouvé une autre particularité.
Oui, particularité. Des fromageries demandent l'installation de porcheries juste à leur côté pour écouler leur petit lait. Des autorisations sont demandées en de multiples endroits de Bresse et du Revermont pour des porcheries en général de 20 à 50 porcs.
Cela pose des problèmes d'odeur lorsque ces fromageries sont installées trop près des villages, comme à Meillonnat.
La porcherie a été installée sans autorisation. Une pétition est lancée, mais 61 personnes contre 3 se prononcent pour son maintien. Ouais, ce sont les sociétaires qui fournissent le lait. Il y a d'autres porcheries à Saint-Just, Simembre, Monziat, Saint-Denis-les-Bourgs, Jaillat, Druyat et d'autres. Celle de Tossiat n'est pas autorisée, car elle est trop proche du village.
Tout s'accélère après la Seconde Guerre mondiale, où les élevages deviennent des industries de production standardisées. Et dans nos propos, Martine, nous n'avons pas parlé du porc familial.
Rémi, vous n'allez pas m'imposer cette tuerie, pas question. Hein.
Elle faisait partie de la vie campagnarde.
Bon, c'est vrai, mais limitons-nous à certains aspects hein, quand même. À la campagne, ceux qui n'élevaient pas de porc achetaient un porcelet et l'engraissaient jusqu'à l'hiver. Là, on faisait appel au boucher ambulant, fort sollicité.
C'était jour de fête.
Ouais, en quelque sorte, pour la famille et les voisins, mais pas pour le porc. On leur portait un peu de boudin et des abats. En retour, ses voisins faisaient de même lorsqu'ils tuaient leurs cochons. Ces échanges étaient un temps fort de la vie campagnarde. En certains lieux, le hameau se rassemblait pour partager un repas en commun à base de cochons.
C'était la Saint-Cochon.
Ah, une appellation que l'on retrouve dans une quinzaine de départements de France. Dans l'Ain, elle serait attestée à Bourges, à Chalamont, Hauteville et Saint-Étienne-du-Bois.
Il y a aussi un autre type de fête.
La Saint-Antoine. Fêtée dans les 7 paroisses du diocèse placées sous le vocable de ce saint. En Bresse, cette fête s'est longtemps maintenue à Saint-André-sur-Vieux-Jonc, Chanoz-Châtenay et Saint-Trivier-de-Courte, avec messe solennelle et distribution du pain béni. C'était une fête dans le village le dimanche le plus proche du 17 janvier.
Terminons avec cette fête villageoise et donnons rendez-vous à nos auditeurs dans un mois.
Ah ben, bien sûr, sur Radio B, 90 FM ou sur le site radio-b.fr. Au revoir.
Au revoir.
Et avec un chant festif.